Voilà. Il est 30 piles. Je sais qu'il y a toujours quelques retardataires, donc je vais prendre la parole histoire d'être dans les temps et d'introduire ce sujet. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux, ravis de vous accueillir pour ce nouveau café scientifique entre midi et sciences de la Galerie Eureka. Une rencontre exceptionnelle qui va nous plonger dans les méandres de l'intelligence artificielle avec un focus particulier sur ChatGPT, une révolution à lui seul dans le monde de l'information et du langage. ChatGPT a émerveillé le monde par sa capacité à comprendre et à générer un langage humain d'une manière incroyablement naturelle. Est-ce une simple évolution technologique ou bien assistons-nous à une véritable révolution de l'intelligence? C'est là l'une des questions à laquelle nous tenterons de répondre au cours de ce café scientifique. Que vous soyez novice en la matière ou passionné par l'intelligence artificielle, cette rencontre promet d'élargir vos horizons et de susciter des réflexions stimulantes. Avant de passer la parole à notre invité, je tiens à dire que je n'ai pas écrit une seule ligne de ce texte. J'ai demandé à ChatGPT de me dire, ChatGPT, écris-moi un texte pour présenter le café entre midi et sciences de la Galerie Eureka consacré à ChatGPT. Donc je vois que simplement avec cette introduction, on a compris la problématique. Si cet outil fait la joie de nos lycéens et des étudiants, d'un point de vue professionnel, c'est questionnant, notamment sur l'avenir de certains métiers et même de nombreux métiers. Pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter Flavien Vernier. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur holistique, donc qui est le laboratoire d'informatique, système traitement de l'information et de la connaissance de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les cafés scientifiques et cafés entre midi et sciences de la Galerie Eureka, je rappelle le principe, nous sommes là sur une petite heure. Nous donnons la parole à notre conférencier, à notre invité, pour une petite demi-heure pour nous exposer vraiment les bases du problème, qui permettra justement d'échanger et d'être vraiment dans un café débat pour pouvoir lui poser toutes les questions la demi-heure suivante. Merci d'avoir accepté l'invitation et je vous laisse la parole tout de suite.
Merci de m'avoir invité. Merci pour cette introduction. En quelques mots, parce que je suis des deux côtés, dans le sens où mon métier va être impacté par ceci et je travaille sur l'IA. Je suis enseignant-chercheur à l'université, à l'école d'ingénieurs. Je travaille en informatique, donc j'enseigne les domaines de l'informatique de manière assez générale. Et ma recherche se focalise sur le logiciel et l'intelligence artificielle. Ce qui va nous intéresser un peu plus particulièrement sur cette conférence, sur cette présentation, c'est ChatGPT, puisqu'il fait énormément de bruit, notamment à travers les possibilités qu'il apporte. Au cours de cette présentation, comme ça a été introduit, on va avoir différentes choses, notamment l'utilisation par les étudiants, par les élèves, qui pose problème à certains enseignants. On pourra revenir dessus. Voir quelques mythes que je casserai peut-être, je suis désolé. Voir son utilité, son impact, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies, dans la vie de certains. Et est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas, ou est-ce que c'est une technologie et que ça dépendra de ce qu'on en fera. Alors, dans un premier temps, je vais vous introduire un peu qu'est-ce que ChatGPT, parce que je suppose que tout le monde ne connaît pas particulièrement ou en a simplement entendu parler. Je vous présenterai également à quoi ça peut servir, puisque ça ouvre énormément de portes. À partir du moment où on parle d'intelligence, souvent on se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment intelligent. Nous, en tant qu'humains, on est considérés comme des êtres intelligents. Certains se posent la question sur les animaux. A priori, la question ne se pose plus trop, ça a été montré. Mais sur un logiciel, sur quelque chose de numérique, est-ce que c'est réellement intelligent ? À partir de là, on pourra se poser la question de... est-ce que c'est réellement une révolution? Est-ce que c'est un pas technologique supplémentaire? Qu'est-ce que ça va changer? Et après, qu'est-ce qui va se passer puisque ça évolue très très vite? Alors, pour reposer les choses, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un chatbot conversationnel. C'est assez important à le noter parce qu'un chatbot, ça indique que c'est un logiciel, un chat, qui sert à parler. Le terme bot, en gros, c'est un robot. son objectif, c'est de parler. Conversationnel, bah parce qu'il va converser. Et c'est réellement ça son but de base. C'est un chatbot conversationnel. Il est là pour parler. C'est très important parce que ça a des impacts sur lesquels on reviendra par la suite. Donc ce chatbot conversationnel, derrière, c'est une intelligence artificielle qui fonctionne. Alors une intelligence artificielle, si je me souviens bien, oui, c'est là où je démystifie un peu le phénomène magique de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, à la base, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Le neurone informatique, logiciel, numérique, a été inventé et mis en place entre les années 50 et 80. Donc c'est pas nouveau. Ça existe depuis plusieurs décennies. Son mécanisme est très simple. Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple qui est utilisé le plus souvent parce que c'est l'exemple le plus classique, c'est une image. On a une image, on est en informatique donc tout est nombre, notre image c'est des nombres. On va prendre soit toute l'image, soit une partie de l'image et on va l'envoyer à une première couche du réseau de neurones qui est illustré ici. Il va faire la somme de tous ces nombres, il va regarder si ça dépasse un seuil et puis si ça dépasse ce seuil, il va envoyer cette information à la couche suivante, qui va recevoir des informations de plusieurs neurones de la couche précédente, puis qui va faire la même chose. Puis ça recommence, puis ça recommence, puis ça recommence. Donc un réseau de neurones, ChatGPT, passe son temps à faire des additions. Et puis regarder si c'est supérieur à un seuil, c'est un peu simplifié, mais pas tant que ça. Et arrivé à la fin, dans les utilisations classiques, on va avoir des réseaux de neurones qui classent, très souvent utilisés ben pour classer. J'ai une image, à la fin, il me dit, c'est la classe 2. Donc la classe 2, c'est un chat. Ou alors j'ai une image, à la fin il me dit c'est la classe 3, c'est un chien. Et ainsi de suite. Donc il fait de la classification, c'est le mécanisme de base. Et pour faire ça, bah, il fait que des additions, puis des tests. Donc derrière un réseau de neurones, il n'y a rien de magique. C'est juste des maths, c'est juste du calcul. La révolution sur les réseaux de neurones, ça a été de dire bah, comment je vais fixer ce seuil pour que ça marche bien. Pour que quand je lui donne une image de chat, il me dise à la fin c'est 2. Eh bien, au départ, le réseau de neurones, bah, il ne sait pas, il est obligé d'apprendre. Donc, je vais lui donner une image de chat, puis il va me dire, c'est 6. Alors, je vais lui dire, non, c'est pas 6. Moi, ce que je veux, c'est 2, tu as fait une erreur de 4. Donc, il va repasser tout le réseau à l'envers en disant, ah ben, à la fin, j'ai fait une erreur de 4. Donc, je corrige un petit peu. Puis, il va dire à la couche d'avant, tu t'es trompé, corrige-toi. Qui va dire à la couche d'avant, tu t'es trompé, corrige-toi. Et ainsi de suite. Je lui redonne une image de chat. Ce coup-ci, il me dit 3. Ah, c'est mieux. C'est plus près de 2, mais ce n'est pas encore ça. Donc, il va se recorriger. Et il va passer son temps à faire ça au départ, dans sa phase d'apprentissage. Je lui donne quelque chose, il me donne une réponse, je lui dis non, ce n'est pas ça. Il corrige, et ainsi de suite. Il corrige ses poids, ses numéros. La difficulté sur un réseau de neurones, parce qu'un humain pourrait le faire, c'est que si on prend ChatGPT, qui est un réseau de neurones qui est dédié au langage. C'est un très grand modèle de langage. Le nombre de paramètres qu'il y a à corriger dans ChatGPT pour qu'il fonctionne, qu'il commence à fonctionner correctement, c'est 175 milliards de paramètres. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ça a mis autant de temps pour fonctionner. Le premier réseau de neurones, dans les années 80, on l'avait. Sauf que les machines n'étaient pas assez puissantes. Dans l'IA, on a souvent des nuits de l'IA. C'est-à-dire qu'on a une révolution qui marche, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de révolution. Dans les années 90, il y a eu très peu d'évolution parce que les machines n'étaient pas assez puissantes. Ça s'est réveillé dans les années 2000, notamment grâce aux cartes graphiques. Alors mon ChatGPT, il est là. C'est un grand modèle de langage. Lui, son job, ce n'est pas des images de chat, c'est du langage, le langage humain qu'il va traiter. Le langage naturel. Une de ses particularités, parce que le langage naturel, on sait le traiter depuis longtemps, c'est que lui, naturellement, comprend le contexte. Dans son traitement, en faisant ses calculs, il va avoir une réponse qui est dans le contexte de la question. Vous connaissez peut-être, vous avez certainement connu, le petit trombone sur Windows auquel vous posez une question, qui vous répond, vous reposez une question, il vous répond, puis il vous énerve parce qu'il ne répond pas du tout à ce que vous voulez. Parce qu'il ne gère pas du tout le contexte et que c'est des réponses qui sont préenregistrées. Là, ce n'est pas des réponses préenregistrées, il est capable de générer une réponse. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT, forcément, comment il se présenterait. Je n'ai pas suivi son plan parce que ce n'était pas le mien, ce n'est pas comme ça que je voulais le présenter. Mais lui se présente comme des réponses générées de manière créative. On pourra en discuter, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la capacité de créativité. Donc, Notre ChatGPT, c'est ça. C'est un programme qui fait des calculs et qui va générer des réponses par rapport à des questions. Donc, je pose une question et il me génère une réponse. Donc derrière, on va se demander à quoi ça peut servir. Et c'est là où le début de la révolution de l'impact de ChatGPT dans notre monde a été impressionnant. Alors j'ai mis des codes couleurs pour ce qui est plus ou moins bien. Faire les devoirs à la place des lycéens et des étudiants, oui, il est très doué pour le faire. C'est... voilà. Mais ça marche très très bien. Et c'est impressionnant. On en causait tout à l'heure sur des sujets de géographie, sur quasiment tous les sujets qu'on peut imaginer, où il y a une certaine base de connaissances, il saura répondre de manière très cohérente et très pertinente. Parler pour ne rien dire. Il sait très bien le faire. J'ai fait l'expérience, parce que je le teste pour voir ce qu'il est capable de faire. Je lui ai posé la question de savoir comment ça allait. Il n'a pas de personnalité. Je pense que c'est protégé exprès. Je n'ai pas forcé à essayer de lui donner une personnalité, parce que comme il génère de l'information, on peut essayer de le biaiser. Mais il le protège contre ça. Par contre, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, oh, je ne suis pas très bien aujourd'hui. Il était désolé. Il me demandait ce qu'il pouvait faire. Je lui ai dit, ben, raconte-moi une histoire joyeuse. Bon, j'ai causé avec lui pour causer. Il m'a inventé une histoire plutôt joyeuse pour me remonter le moral. C'était pour contextualiser, mais on peut causer avec lui comme ceci. Il est capable de faire de la traduction dans une dizaine de langues, de manière plus ou moins efficace en fonction de la quantité d'informations dans les langues qu'il a eues. Donc en anglais, ça marche très bien, en français, ça marche très bien. Anglais, japonais, chinois, japonais, ça doit très bien fonctionner également. Je ne les ai pas testés, ces langues. Des moteurs de recherche. Sur un moteur de recherche, c'est mieux que Google, mais ce n'est pas encore un vrai moteur de recherche. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui poser une question, je vais poser différentes questions. Les questions qui sont juste en dessous, je vais poser la question comment faire un bœuf bourguignon. Donc il m'a sorti la recette avec les ingrédients, mise en forme, tout. Je ne l'ai pas testé. Je lui ai demandé également, explique-moi comment faire un point de croix. Ah, il m'a sorti toute la description, il m'a expliqué comment faire. Je lui ai dit, j'aurais besoin de telle pièce pour ma voiture. Alors il m'a dit, tu peux aller sur tel site et tu retrouveras. Mais je ne peux pas cliquer, il n'y a pas de lien, ce n'est pas Google, ça ne me permet pas d'aller sur les sites encore. Ça ne saurait tarder. L'aide à la rédaction. L'aide à la rédaction, je pense que c'est la manière dont je l'utilise le plus souvent. Parce que l'aide à la rédaction, il va me permettre de voir les coquilles d'orthographe que j'ai laissées. En disant ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas passé mon transport. Donc s'il y a quelques coquilles qui traînent dedans, je vous demanderai de m'excuser. La grammaire, il est capable de corriger la grammaire, il est capable de corriger le style. Il y a une semaine, je devais rendre un rapport sur une thèse pour qu'un étudiant puisse soutenir sa thèse. Donc j'ai écrit mon rapport. Et puis à la fin de mon rapport, je l'ai donné à ChatGPT. Et ChatGPT m'a dit, il y a une erreur ici, j'ai corrigé une erreur ici. Puis il est arrivé à un endroit, il m'a dit, cette phrase est un peu lourde. J'ai regardé la phrase, puis j'ai fait, oui, ok, je sais, elle est un peu lourde. J'ai eu un petit peu la flemme de la réécrire. Comme il m'a dit que la phrase était un peu lourde, j'ai réécrit ma phrase de manière plus légère. Et à la fin, il me disait que bon, mon rapport était bien écrit, de manière positive. C'est-à-dire qu'il a compris le contexte, que c'était un rapport pour une thèse en informatique, il a compris le style, il a compris les lourdeurs des phrases et autres, et il a été capable de me proposer des corrections. Parce que je lui ai demandé de me proposer des corrections, pas de l'écrire à ma place. Chose que des étudiants lycéens pourraient faire. Alors, généralement, quand ils le font, ils se font très vite avoir, parce que ce n'est pas leur style. Par contre, ChatGPT sait très bien gérer le style. C'est-à-dire que si dans un français moyen, avec un peu d'argot, je lui demande de m'écrire une lettre de motivation dans un style soutenu, il va me le faire. Si je lui demande, alors je jette un coup d'œil qu'il n'y ait pas trop d'élèves ici, si je lui demande par exemple de me rédiger un essai philosophique, je suis au lycée, j'ai un essai à faire, un essai philosophique, il va me rédiger l'essai philosophique, j'ai regardé l'essai philosophique, puis j'ai fait « waouh ». Je vais me faire choper par le prof parce que c'est trop bien. Je lui dis, bon, ok, tu me réécris ça, C'est très bien, mais tu me le réécris dans un style de lycéen qui n'est pas très bon en français. Il va me le réécrire, il va me gérer le style. Non, je ne le dis pas trop fort parce que s'il y a des étudiants, ils vont l'utiliser après. Bon, on sait à peu près ce que c'est. Maintenant, on sait à quoi ça peut servir. Il y a plein d'autres utilisations. J'ai laissé trois petits points à la fin de différentes couleurs parce que ben, ça dépendra de ce que l'on veut en faire, hein, de ce qu'on fait. Mais je n'ai pas encore exploré tout, je ne pourrai jamais tout explorer, ça évolue tellement vite. Mais on va le voir, nous, dans notre avenir hein, commun, de ce qui sera mis en place. Alors la question, c'est là où je casse le mythe, est-ce que c'est vraiment intelligent ? J'ai un petit peu un parti pris, mais on l'a chacun, hein, c'est un point de vue. Un réseau de neurones, parce qu'au départ c'est un réseau de neurones, a besoin d'une base de connaissances. C'est-à-dire que ChatGPT, pour pouvoir faire ce qu'il fait, ce qui est assez impressionnant, il a eu besoin de plusieurs milliards de phrases. Alors il faut bien voir que, comme je vous ai montré, hein, il ne retient pas les phrases. C'est comme nous. Si je vous montre une image de chat, vous serez capable de me dire que c'est une image de chat. Vous allez être capable de la reconnaître, cette image de chat. Mais si je vous demande de la dessiner, vous ne me redessinerez jamais le même chat, sauf si vous êtes un artiste et que vous avez l'œil et que vous avez pris tous les détails. Donc c'est vraiment exceptionnel d'être capable de le faire. On ne retient pas l'image, pas comme un ordinateur classique, où si je lui donne un programme classique, je lui donne l'image, il enregistre l'image, puis si je lui demande de me redonner l'image, il va me redonner exactement la même image. Donc non, le réseau de neurones ne fonctionne pas comme ça, il n'a pas mémorisé toutes les phrases, il s'est paramétré avec toutes ces phrases-là. Il a été entraîné, et ça, c'est un impact non négligeable. L'entraînement qui est sous-jacent fait qu'il a ses limites. Il est incapable de reconnaître ce qu'il n'a jamais vu. C'est-à-dire que si je prends mes images de chat, parce que ça parle, si je lui donne plein d'images de chat en journée, le jour où, or pas ChatGPT, hein, je lui donne une image de chat la nuit, dans une pénombre, il est incapable de le reconnaître, de reconnaître que c'est un chat. C'est une IA générative qui génère du contenu. Et on sait que toutes les IA génératives, alors ChatGPT le fait pour du texte, DALL-E le fait pour des images. Je l'ai testé, je lui ai demandé pour une mascotte d'un programme informatique de me dessiner un suricate penseur de rodin. Donc je l'ai écrit, hein, dessine-moi un suricate penseur de rodin. Il m'a dessiné un suricate penseur de rodin. Alors avec des mains un peu bizarres, des pieds un peu bizarres, parce que les pieds ça ressemblait plutôt à des mains. J'ai du mal à savoir s'il a trois mains ou ça. Mais le rendu est très beau. Il y a un côté artistique qui est assez bien, je l'ai gardé. Il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Sur ChatGPT, il a également, quand je lui demande de corriger du texte, de trouver des erreurs, il va me trouver des erreurs parce que, c'est ce que je vous disais dès le départ, son objectif c'est de parler. C'est un chatbot. Donc lui, ce qu'il veut, c'est parler. Alors il est très verbal, hein, il cause. Et sur des corrections, de temps en temps, il me dit, il y a telle correction, ok, je regarde, je corrige. Puis il y a un moment donné, je regarde, il me dit, là c'est faux, il faut l'écrire comme ceci. Le texte, c'est moi qui l'ai écrit, je sais ce que j'ai écrit, et puis je ne pense pas avoir fait l'erreur, je l'ai bien écrit. Et lorsque je vais voir dans mon texte, effectivement, je l'avais bien écrit. Donc comme je lui ai demandé de me trouver des erreurs, là, il l'a fait à l'inverse. Il a pris ce que j'avais écrit, il m'a dit, voilà ce qu'il faut faire, et il a généré une erreur. C'est une IA générative, elle génère du texte pour causer. Donc de temps en temps, il y a des hallucinations, on le sait. On parle d'hallucination parce qu'il génère quelque chose qui n'est pas très cohérent. Autre chose, lorsque je fais une requête sur ChatGPT, une requête, la consommation, c'est de l'ordre du kilowatt. Ce n'est pas négligeable, mais tout ce qui est dans la tech, hein, Google, c'est pareil. Hein, lorsqu'on fait une recherche sur Google, c'est énorme. Et la question, c'est est-ce que c'est réellement intelligent ? Si je prends un humain et que je repasse toutes ces questions-là, un humain de 6 ans, un enfant de 6 ans, je lui montre deux images de chat, il sait ce qu'est un chat, il saura reconnaître un chat de nuit. Une IA, il lui en faudra plusieurs milliers pour reconnaître un chat. Donc, il n'a pas ces limites-là. Des hallucinations, alors, en tant qu'humain, on en a, mais on est capable de les détecter assez rapidement parce qu'on a conscience de ce que l'on voit, de ce que l'on fait, de ce que l'on apprend, chose qu'une machine n'a pas, elle n'a pas conscience. La consommation. On est de l'ordre du kilowatt sur une requête. Un cerveau humain, c'est de l'ordre de la dizaine de watts par jour. Une IA, ici, elle traite du texte. Notre cerveau traite du texte, De la vidéo, parce qu'on est en train de regarder, du son en même temps, on est capable de faire du vélo, de marcher, on est capable de sentir, on est capable de faire énormément de choses avec beaucoup moins. Dernière chose, donc c'est l'histoire du chat, et j'ai mis un mot qui est à côté, parce que c'est un mot que j'aime bien, c'est cabiloté. Alors, cabiloté, si je vous demande ce que c'est, vous ne saurez pas, a priori, parce que c'est un mot de langage qui est classé dans l'argot des familles. L'argot des familles, c'est des mots qui sont inventés dans des familles, qui sont utilisés pendant une des générations, puis qui disparaissent après. Il y en a plein dans la langue française. Et cabiloté, c'est un de mes enfants qui l'a créé. Il devait avoir à peu près 5 ans, il jouait avec ses voitures, et puis la voiture était couchée, et puis il me dit « la voiture, elle est toute cabilotée ». Alors je la regarde, je lui fais « ok, c'est quoi ?» Bah, cabilotée, en fait, elle avait eu un accident, elle était toute cassée, accidentée. Donc j'ai posé la question à ChatGPT. Ce que voulait dire cabiloté, je savais qu'il ne pourrait pas répondre. Il ne m'a pas dit qu'il ne savait pas. Il m'a dit que c'était un mot qui était probablement peu utilisé et que dans sa base... Donc, avec un grand texte, il a essayé de contourner pour me dire qu'il ne savait pas. Donc, derrière, je lui ai dit, ben, cabiloté, ça veut dire accidenté. Parce qu'on a un discours avec lui, on parle avec lui. Donc, je lui ai dit, cabiloté, ça veut dire accidenté. Il a eu du mal à l'accepter, moi, du mal à prendre en compte. Puis après, je lui ai reposé la question derrière, en lui demandant, ça veut dire quoi, cabiloté ? Gros, il y a eu 3 questions, moi. Une question, une explication, une question. Il ne sait pas. Il n'a aucune conscience. Il n'est pas capable d'apprendre comme ça. Si je vous demande, vous, ce que veut dire cabiloté, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué. On est intelligent, on a retenu, on a contextualisé, vous savez ce que ça veut dire. On peut même se projeter dans d'autres contextes. Donc la question... Je ne vais pas y répondre, mais je vous laisse à votre propre réponse. Est-il intelligent ? On peut se poser la question. Bon, derrière, on parle de révolution. Une révolution, c'est une rupture, une remise en question des fondements. Est-ce que ChatGPT est une révolution ? Ça va changer beaucoup de choses, c'est sûr. Parce que c'est la première fois qu'on a un outil de ce genre-là qui est capable de gérer le texte à ce niveau-là. Est-ce que ça va supprimer des emplois ? Est-ce que ça va en créer et en modifier ? Alors, je peux vous répondre sur la troisième, parce que je suis enseignant, et que oui, déjà, ça modifie les emplois. Typiquement, je ne demande plus rien d'écrit à mes étudiants à l'extérieur. Ça n'a pas forcément un impact négatif, parce que maintenant, quand je dois évaluer mes étudiants, je vais les évaluer face à face, dans un dialogue avec eux, pour voir s'ils sont capables de m'expliquer ce qu'ils ont compris, au lieu que de me rendre un document qu'ils ont fait générer par ChatGPT. Nos profs d'anglais à l'école font pareil. Elles ne demandent plus rien à faire à la maison. Ils peuvent le faire, c'est leur moyen de travail, mais ça ne sera jamais évalué. Créer des emplois, oui, l'IA est en explosion. J'étais en contact avec un collègue de Madagascar. Madagascar prévoit de créer 6000 ingénieurs de plus d'ici 5 ans. Juste sur l'IA, en France, je crois qu'on veut en sortir 1500 de plus par an. C'est une explosion au niveau mondial sur le domaine de la high-tech et de l'IA. On a une filiale qui est aux États-Unis. Ils ne demandent à l'heure actuelle que des ingénieurs en IA générative de type ChatGPT. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que ça va en supprimer ? Je ne saurais pas dire comme ça, particulièrement pour ChatGPT. Si on regarde l'histoire, tous les grands bouleversements, tous les grands changements technologiques en ont supprimé, mais en ont créé beaucoup plus. Parce que ces changements créent du besoin. Et ils créent beaucoup plus de besoins qu'ils ne suppriment d'emplois. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus besoin de personnes pour répondre aux besoins qu'ils ont créés. Il n'y a qu'un endroit où ça ne s'est jamais produit, ça, où c'est en agriculture. Parce que le besoin, c'est nous, c'est notre capacité à manger et les révolutions en agriculture, elles, ont supprimé des emplois et n'en ont pas créé. On n'a pas créé plus. Améliorer le quotidien des salariés, oui, j'en suis quasiment sûr. Sur certains métiers qui touchent au texte, qui touchent à la création littéraire, pour de la correction, pour aller plus vite. Dans l'avenir, ça va le changer. Je vois, moi, à l'heure actuelle, lorsque j'écris un article, alors, je ne l'écris plus, mon article, je le dicte. Je le dicte en anglais, je le dicte en français, et puis derrière, je demande à ChatGPT de me montrer les fautes, les corrections que je pourrais amener sachant qu'il ne me fait que des propositions, je reste celui qui décide. Donc oui, ça c'est sûr que ça a amélioré une partie de mon travail. Et après, je pense qu'il faut garder en tête que c'est un outil. C'est vraiment un outil technologique. Et c'est nous, les personnes qui allons l'utiliser. Par contre, c'est qu'une première étape. Ça va évoluer encore très vite. Ça évolue très très vite. On considère que sur les deux dernières années, la capacité des intelligences artificielles ont été multipliées par 1000. Ça va continuer. Après, on va certainement arriver à une limite qui est le matériel. On arrive souvent à cette limite-là. C'est-à-dire que ça va stagner. On va commencer à intégrer dans notre vie quotidienne ces systèmes-là. Certains ont peut-être déjà Alexia, Siri pour causer à leur système. Ben, il y aura des chatbots dedans qui répondront un peu mieux. Ben, Siri m'énerve régulièrement parce que je lui pose des questions et puis il me dit « J'ai trouvé sur Google, débrouille-toi, vas-y. » Moi, je voulais la réponse. Je ne voulais pas qu'il m'envoie sur Google. Et après, alors j'ai mis cette photo de manière un peu provocatrice. Et après, ben, je suis prêt à répondre à vos questions, à vos interrogations, si vous voulez qu'on discute de différents points.
Eh bien, merci infiniment, monsieur Flavien Vernier. Bravo pour la gestion du temps. Je ne suis pas sûr que ChatGPT aurait pu gérer ce temps de cette façon admirable. Vous connaissez le principe, hein, le micro, c'est un peu le bâton de témoin, c'est enregistré un podcast, donc parlez bien dans le micro pour qu'on puisse entendre la question. Merci.
Oui, bonjour, merci pour ces informations. Est-ce que, à tout hasard, vous avez prévu de faire une démonstration en direct, s'il y a du réseau, pour voir ce que ça donne, parce que
alors,
je suis peut-être pas le seul.
Je peux, j'ai des... Alors la démonstration, si j'ai du réseau, je pourrais la faire. Alors, ça se présente de la manière suivante. J'ai une zone, donc là, je suis sur la version gratuite. ChatGPT, il y a une version gratuite, qui est la 3.5. Il y a une version payante. Nos étudiants à l'université, certains prennent la version payante. Ils sont prêts à payer pour avoir ce service. Donc ici, vous avez la petite histoire que je lui ai demandé. Or, j'ai été très poli, hein, je lui ai dit merci à la fin. Il répond, en gros, je cause avec lui pour causer. Derrière, je peux lui demander un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez une question à lui poser ?
Moi, j'avais une question. Vous parliez de suppression d'emplois. Aux États-Unis, les scénaristes dans le cinéma ont fait grève parce qu'effectivement, tout ce qui est création littéraire, cinéaste ou autre, comme c'est conversationnel, on lui demande d'écrire une histoire, il l'a fait. Oui. Donc là, il pourrait y avoir réellement des suppressions d'emplois. Oui. Est-ce vrai ?
Alors,
ChatGPT, réponds-moi.
Je vais lui poser la question. Je l'ai écrit de manière simple et générale. Alors, il est en train de répondre ici. Donc, il me dit « L'impact de l'utilisation des technologies comme de la mienne sur l'emploi dépend de divers facteurs. » Forcément, voilà. C'est là où je vous dis, hein, c'est un chat, c'est un beau parleur. Hein. Il parle bien, il enrobe les phrases, y compris de la manière dont ces technologies sont intégrées dans la société et l'économie. Voici quelques considérations générales. L'automatisation, certaines tâches répétitives, blablabla, création d'emplois d'un autre côté. Voilà. Donc, derrière, si je précise un domaine, il va pouvoir me répondre un peu plus particulièrement dans ce domaine.
Oui, c'est ça que j'aurais aimé, un domaine précis pour voir s'il arrive à répondre précisément. Suppression des emplois de scénaristes aux États-Unis, par exemple. Pour voir s'il a suivi l'actualité, par exemple.
Alors, il y a une chose à savoir, c'est que ça reste une IA qui a été entraînée. Dans l'explication que je vous donne avec Kabiloté, elle n'est pas capable d'apprendre en temps réel. Moi, ils ne l'ont pas faite. À l'heure actuelle, ChatGPT, sa base de connaissances s'arrête, je crois, en décembre 2022. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé cette année, si je lui pose des questions, il sera incapable de répondre. Ça reste une machine, sa base de connaissances n'est pas assez approfondie pour ça. Alors, le problème existe depuis plus longtemps, donc là il aurait été l'utilisation des technologies. Voilà, il répond quelque chose à peu près.
C'est très littéraire, un plan de parti, thèse, antithèse,
oui.
Synthèse.
Il répond, voilà, il construit sa réponse pour ne pas complètement prendre position. C'est par rapport à ce qu'il a vu. Je pourrais lui demander de le faire dans un autre style, changer le style. Après, il y a beaucoup de vertus.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai cru entendre et comprendre dans vos propos en début d'intervention justement que ChatGPT aurait des inhibiteurs pour l'empêcher de développer une personnalité. Alors, je trouve ça plutôt rassurant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce propos ?
Alors, ChatGPT, il faut bien voir que c'est celui qui est sur le devant de la scène. C'est-à-dire que c'est celui qui va prendre toutes les critiques et toutes les remarques. Alors, il en a déjà eu par rapport à la manière dont il a appris au départ, parce qu'il a bien fallu des gens pour lui faire apprendre tout ce qu'il sait. Ils mettent des inhibiteurs, notamment pour des caractères de discrimination, des caractères qui pourraient être dangereux, notamment s'il prend une personnalité, je pourrais l'amener dans des comportements qui ne sont pas acceptables pour notre société. Mais c'est parce que c'est celui qui est au devant de la scène. Derrière, on a l'IA qui est derrière, ça s'appelle une LLM, donc une IA qui est dédiée au langage, qui est complètement ouverte. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez prendre la vôtre, la mettre chez vous. Alors, il vous faut une grosse machine, et puis il faudra l'entraîner. Donc ça prend du temps, mais n'importe qui peut le faire. Donc le problème là, c'est la société qui le prend en main, les services publics, le droit, c'est là où ça va créer énormément d'emplois, parce que on n'a pas encore de règles là-dessus, de ce qu'on accepte, ce qu'on autorise, quelles sont les choses qu'on autorise à l'IA de faire, de dire et autres, et quelles sont les responsabilités. Donc les inhibiteurs sur ChatGPT, oui, il y en a. Parce que c'est un outil qui est utilisé par, en gros, le monde entier. Il y en a d'autres qui ont été faits sans inhibiteur, mais qui sont beaucoup plus discrets. Derrière, ça reste un programme.
D'accord. Merci pour votre intervention. Ma question porte, qui est derrière ChatGPT et qui alimente la base de données et qui crée aussi les inhibiteurs parce que les inhibiteurs, c'est à la bonne volonté des gens qui gèrent ChatGPT.
Alors oui, donc c'est une société derrière qui s'appelle OpenAI qui a développé ChatGPT. C'est elle qui le gère, c'est elle qui travaille sur son alimentation, qui travaille sur la nouvelle version parce que ça évolue très vite. Et c'est eux qui mettent les inhibiteurs. Même si ChatGPT, le réseau est libre et gratuit, il y a quand même énormément d'argent et ils ne peuvent pas se permettre de mettre quelque chose sur le marché qui irait à l'encontre des coutumes, des usages que les gens et la société en font. On parle de ChatGPT, mais Google a son réseau de neurones en gros identique qu'ils sont en train de mettre en place, qui a 10 fois plus de paramètres à gérer, donc est beaucoup plus gros, et ça va continuer à évoluer. Tant que c'est des grosses sociétés qui sont derrière, même si c'est des grosses sociétés, ça a le double tranchant, c'est que forcément, c'est des sociétés à but lucratif, elles ont un capital, elles ont des actionnaires, elles ne peuvent pas se permettre d'avoir une mauvaise image. Donc, forcément, elles mettent en place les systèmes pour ne pas avoir une mauvaise image. Ça peut être à l'extrême, un peu trop poussé. Hein. On a certains réseaux sociaux qui mettent des filtres très importants parce qu'ils ne veulent pas avoir la moindre image négative attachée à eux. Pour les réseaux de neurones, c'est la même chose. Et derrière, pour qu'un réseau de neurones fonctionne et soit accessible, il faut bien voir que ChatGPT, il y a des milliers de machines qui tournent derrière. Donc ça veut dire que derrière, il y a forcément une société, il y a forcément beaucoup d'argent et que le système se contraint par lui-même.
Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'à une question, ChatGPT répond la même chose, quel que soit l'endroit où on se trouve, comme Google, ou à une question de Google, la réponse est en fonction de notre historique, par exemple?
Alors, la réponse va être en fonction de notre historique, du contexte. La même question que je vais poser à ChatGPT, selon sa complexité, va pouvoir donner des textes différents mais à sens identique. On le voit quand je lui ai posé plusieurs fois la question de manière un peu différente, sa réponse reste dans le même sens, parce qu'il est dans ce contexte-là, parce que son réseau de neurones m'amène à une réponse qui va être dans ce sens-là. Il ne va pas utiliser les mêmes mots, il ne va pas utiliser les mêmes tournures, il pourra changer de style, mais il ne va pas changer de tout au tout. Il ne va pas répondre n'importe quoi, il ne va pas répondre l'opposé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il prend rarement position. Et je pense que le fait qu'il ne prenne pas position, il y a des filtres derrière pour ne pas qu'il prenne position. Parce que ça pourrait poser problème.
Justement, j'enchaînais avec ma question. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un piratage informatique par des Russes ou autres qui pourraient vouloir attaquer et changer la base de données pour que ça soit plus agressif ou autre?
Alors, sur un système informatique classique, oui, c'est tout à fait possible. Sur un réseau de neurones, il n'y a pas de base de données sur ChatGPT. Et c'est ça la particularité. C'est comme notre cerveau. On ne garde pas les images, ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'on va garder, on va parler plutôt pour humain, des sensations, des émotions, des ressentis. C'est-à-dire que si je vous recroise tout de suite, ben, je vais me souvenir que je vous ai croisé. Si on me demande de dessiner toutes les personnes, je suis incapable de le faire parce que je n'ai pas de base de données de ceci. ChatGPT, c'est pareil. Il a un ensemble de paramètres. C'est juste des nombres qui ont été calés. Hein. C'est des petits boutons que j'ai tournés, les 75 milliards de boutons. Bon, c'est pas moi qui les ai tournés, mais il y a 75 milliards de boutons qui ont été tournés pour être bien positionnés. Et une des particularités, ben, je présentais quelque chose d'à peu près similaire à des collégiens mardi pour les métiers de l'informatique. Et j'ai un collégien qui m'a posé une question qui était très pertinente, mais comment ça marche dedans? Pourquoi ça marche? Et ben, je ne sais pas y répondre. C'est un projet de recherche à part entière. Le pourquoi et comment ça marche à l'intérieur, alors il y a des gens qui commencent à travailler dessus, des mathématiciens, pour pouvoir expliquer pourquoi il a répondu ça. Pourquoi, si je prends un exemple, si je prends un réseau de neurones qui regarde un grain de beauté sur la peau, il a 90% de chances de détecter si c'est cancéreux ou pas, alors qu'un humain, médecin, spécialiste du domaine, qu'à 30 ans d'expérience, n'a que 70% de chance. Pourquoi il est meilleur que le médecin? Ben, on ne sait pas répondre. Le mécanisme qui est à l'intérieur, ce n'est pas un mécanisme logique classique de « j'ai une image, j'ai stocké ceci ». Ce qui fait que même si un pirate, pour revenir sur la question, rentrait sur le réseau de neurones, s'il arrivait à rentrer à l'endroit et qu'il changeait un bouton, ça ne changerait quasiment rien. Il faudrait qu'il soit capable de changer les 75 milliards de boutons pour... Et non, ce n'est pas possible. Alors, il y a des biais possibles. Le premier réseau de neurones qui traitait du texte a été une catastrophe. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir le former, le réseau de neurones, on va prendre un corpus de texte. On va lui en donner une partie pour qu'il apprenne. On va s'en garder une partie qu'il n'a jamais vue pour le tester. Et puis, on va lui en garder une dernière partie pour la troisième étape. Alors, la troisième étape, c'est le test. La deuxième, c'est une vérification. Donc, on a trois parties. Le premier réseau de neurones, comme ça, qui traitait du texte, ils ont utilisé un corpus et puis ils ont découpé en trois. Tous les textes qu'ils avaient fait, ça avait été fait aux États-Unis. Et bah, pour découper en trois, c'est simple, hein, on prend la première partie, puis la deuxième partie dans l'ordre. Et le réseau de neurones était hyper raciste. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et il se disait, c'est pas possible, il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'émotion, il n'a pas de vécu, il n'a pas d'histoire. Pourquoi? Ben, tout simplement, quand ils ont coupé en trois les bases de texte, la première partie, les textes étaient rangés par ordre chronologique. Donc la première partie correspondait à toute l'époque un peu de l'époque coloniale américaine. Donc c'était que des textes avec des connotations racistes dessus. Donc le réseau était devenu raciste. Il avait été appris comme ceci. Derrière, on apprend, hein, c'est très nouveau, ça évolue très vite. Donc, ils se sont rendus compte qu'il fallait faire beaucoup plus attention, qu'il fallait mélanger tous les systèmes. Maintenant, il y a des méthodes pour qu'ils apprennent mieux. Qu'il faut faire attention aux biais et aux dérives. Parce que lorsqu'on va réapprendre, typiquement, le ChatGPT, ils vont lancer le réapprentissage sur l'année en cours. là pour qu'il intègre les nouvelles choses. Ils vont être très attentifs aux biais qu'il peut y avoir. S'il y a une trop grande importance d'une information, qu'elle ne prenne pas trop de place par rapport aux autres pour pas, je vais faire de la caricature, mais faire comme les médias, c'est-à-dire mettre en avant une information plus importante parce que ça attire plus de personnes.
Pour faire un petit peu peut-être de politique fiction, est-ce que techniquement, pas éthiquement, hein, mais techniquement, ça vous semble possible qu'un organisme, un État, une entreprise rentre des informations fausses pour en faire une intelligence artificielle type ChatGPT qui ne répond qu'avec des informations, des fausses réponses, des mauvaises réponses?
Ah oui, tout à fait, ça, aucun problème. Le réseau de neurones apprenant sur les données qu'on lui donne. Donc si j'ai une quantité de données fausses assez importante, je peux créer un réseau de neurones qui va répondre de manière complètement fausse et automatique, et ça existe déjà. Les réseaux sociaux, vous avez un certain nombre de comptes qui ne sont pas humains pour faire de la propagande. Mais il n'y a aucun problème. Ce qui va se passer, ça va être l'effet de masse. C'est-à-dire que pour qu'un tel système puisse prendre le pied sur le monde réel, sur la réalité, sur ce qui est vrai, il faudrait que pas un État, mais tout un État puisse envahir les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser cette information, tout un ensemble d'États, et qu'ils arrivent à devenir majoritaires. J'ai un ami qui a fait le test avec son enfant, notamment pour lui montrer qu'un réseau de neurones peut dévier. Il a réussi, avec ChatGPT, à lui faire dire que la Terre est plate. Alors, dans son contexte à lui, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre lui pose la question, il va dire non, la Terre est ronde. Mais dans son contexte, comme il s'adapte au contexte, à force de lui poser la question, d'insister, il y a des moyens qui sont connus et qui sont de plus en plus protégés, où on insiste, il va être capable de lui faire dire que la Terre est plate. Mais de la même manière, il a réussi à lui faire dire par la suite que la Terre était un donut. Mais voilà, après ça reste confiné à une personne ici chez lui. Dans le reste du monde, la Terre est restée ronde.
Bonjour, merci. Je suis content d'être venu là et de ne pas avoir eu pour l'instant les informations que vous nous échangez par ChatGPT, parce que j'imagine, enfin pour moi, il n'y a pas que le contenu qui compte, il y a aussi toute une forme de contexte social. Justement, ma question c'est celle-là, est-ce que les recherches, les études sur les impacts sur nos sociétés de ces outils vont aussi rapidement que ces avancées technologiques, notamment dans la direction, alors je fais peut-être, vu mon âge, un peu dinosaure, mais dans la question de la transmission des savoirs, des autorités au sens large qui étaient appuyées dans nos sociétés sur justement ces transmissions de savoirs, est-ce qu'il n'y a pas des bouleversements sociaux qui nous dépassent un petit peu actuellement et qui ont des conséquences qu'on voit déjà dans nos sociétés d'aujourd'hui? Merci.
Alors, sur la transmission du savoir en particulier, c'est clair, il y en a. Le problème de la transmission du savoir avec ChatGPT, c'est un problème à part entière. Alors moi, j'ai une vision qui la considère moins comme un problème que comme une nécessité d'apprendre à l'utiliser, parce que moi, j'ai vécu l'arrivée de Google. J'étais en train de faire mes études quand Google est arrivé. Et pour moi, ChatGPT et Google, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début, moi, mes camarades, lorsque nos enseignants nous demandaient de faire quelque chose, le réflexe était Google, première réponse, copier, coller. Google, c'était le savoir, l'accès à tous les savoirs, et c'était la vérité. Alors en gros, la première réponse, c'était la plus probable, donc on le prenait. Bon, on a très vite vu qu'il fallait apprendre à l'utiliser, qu'il fallait recouper l'information, qu'il fallait même utiliser plusieurs moteurs de recherche. Parce que Google, il a son propre biais, qui est commercial, qui est par des méthodes pour proposer les liens. ChatGPT, c'est exactement la même chose. Sur la transmission du savoir, j'ai des étudiants qui me l'ont déjà fait. Hein. Ils posent la question à ChatGPT. ChatGPT leur donne la réponse en code. Ils prennent le code, copier-coller, et ils m'appellent. Et puis derrière, monsieur, ça ne marche pas. Bon. Alors je regarde, je fais, ah ben oui, mais c'est normal que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ça. Le texte est très bien écrit, hein. Le code est très bien écrit. C'est cohérent, mais il y a un endroit, une incohérence. Et c'est là que je demande à l'étudiante en question, mais tu as trouvé ça où? Ça ne peut pas marcher. Et elle me dit, ChatGPT. Alors j'ai fait, ah, Très bien. J'encourage mes étudiants à utiliser ChatGPT. J'y fais, ok. Bon, tu sais que ça ne marche pas maintenant. Je pars. Quand je reviens, tu m'expliques pourquoi ça ne marche pas. Donc, elle avait une réponse. Pour elle, c'était la réponse absolue. Donc, non, il faut qu'elle apprenne à avoir ce qu'on appelle un esprit critique dessus, dans tous les sens du terme, hein, positif, négatif, recouper l'information, recouper le savoir que l'on a. J'ai un autre étudiant qui m'a fait à peu près la même chose. Je lui ai donné un tutoriel, pas à pas, un peu complexe exprès, pour qu'il soit obligé de réfléchir dessus, pour pouvoir... développer une application sur smartphone. Et puis, quelques temps, il commençait à galérer, il avançait pas, donc je finis par aller le voir, et je regarde le tutoriel qu'il utilise, et je dis, c'est bizarre, c'est pas le tutoriel que je t'ai donné. Et je lui demande, tu l'as eu où? Ben, j'ai demandé à ChatGPT. Donc il a demandé à ChatGPT de lui faire un tutoriel pour pouvoir faire son programme, alors que je lui en avais donné un. Mais comme il n'arrivait pas à comprendre le mien, il pensait que la grande intelligence artificielle allait lui donner la solution. Donc, au niveau de la transmission du savoir, à l'heure actuelle, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne s'est pas encore rentré dans les habitudes de l'utiliser, oui, c'est un problème. Ce qu'il faut absolument pour nous, s'il y a des enseignants ici, pour moi, c'est apprendre à mes étudiants à l'utiliser. Et à réfléchir. Parce que moi, en école d'ingénieur, mon objectif, c'est qu'ils réfléchissent, qu'ils comprennent et qu'ils soient capables d'expliquer. Mais on va avoir quelques années assez difficiles. Et surtout que ça va encore évoluer.
Oui, je voulais savoir, face à, disons, à la possibilité de déviation, déviationnisme, si je peux dire, d'utilisation de ce type de d'intelligence artificielle, se mettent en place des réglementations, on essaie de mettre en place des réglementations qui sont très différentes d'un État à l'autre, disons d'un continent à l'autre. Il y a des bagarres. Est-ce que, ma première question serait de savoir, vous, en tant que scientifique, en tant que chercheur, est-ce que vous êtes appelé à participer à ces réflexions de réglementation? Et l'autre, est-ce que ce serait-il pas souhaitable d'avoir plutôt une réglementation internationale? Il y a d'ailleurs, je crois, via l'UNESCO, un comité qui s'est mis en place relativement récemment. Est-ce que c'est des choses qu'il faut appuyer?
Alors, d'un point de vue personnel, je ne suis pas sollicité, je ne travaille pas sur le fonctionnement profond de ces IA. Moi, je travaille surtout sur leur intégration au sein du logiciel. Il y a des collègues qui sont forcément conviés pour des avis d'experts, mais ce n'est pas mon cas, mais c'est sûr. Après, au niveau politique, par rapport à ceci, il y a le côté technique, avis d'experts techniques, il y a le côté social aussi qui rentre en compte. Il y a des côtés juridiques qui vont rentrer en compte, et puis il y a un état de fait. Et donc chaque état est en train d'essayer de trouver ses solutions, sa solution par rapport à ceci, de manière indépendante. Certains l'ont interdit. Certaines écoles d'ingénieurs, de très grandes écoles d'ingénieurs, l'ont interdit. De mon point de vue, c'est complètement illusoire. Une école d'ingénieurs qui l'interdit, on sait très bien que les étudiants vont l'utiliser à côté. Bon, à la rigueur, quand ils sont dans l'école, on peut mettre un filtre pour qu'on ne puisse pas utiliser ChatGPT. Mais l'étudiant est sur son ordinateur portable, avec son téléphone et de la 4G, il a accès à ChatGPT. C'est complètement illusoire. Des réglementations nationales pour le réguler, le temps qu'elles soient mises en place... Parce qu'il y a des textes légaux, la mise en place c'est très long. Dans quelques mois, ChatGPT, on aura une nouvelle version, on aura un concurrent, et puis un autre concurrent. On a une évolution qui est exponentielle à l'heure actuelle. Donc, l'évolution, je parle de ChatGPT parce que c'est le sujet là, mais les intelligences artificielles de manière générale évoluent très vite. Il va falloir le faire. De toute manière, il va falloir qu'une réglementation se mette en place, que les États, que les services juridiques y réfléchissent. Parce que ça évolue tellement vite, ça fera partie de notre quotidien. Ça le fait déjà. On ne le sait pas forcément, on n'en a pas forcément conscience, mais ça le fait déjà. Il y a déjà des réglementations en partie, mais il va falloir qu'ils continuent à travailler dessus. Une réglementation internationale identique, ça, j'y crois pas. Quand on voit les États-Unis qui essaient de recruter un maximum de personnes dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument que ça évolue très vite. Et ils savent que c'est stratégique, parce qu'il faut être les premiers dessus. Parce qu'il y a énormément d'atouts à l'avoir. Donc, d'un point de vue international, certains pays le feront, on l'aura peut-être en Europe, mais au-delà, j'ai quand même des doutes.
Bonjour, merci beaucoup. Je voulais vous revenir un petit peu sur l'origine en fait, du programme. Vous avez tout à l'heure dit que c'était un programme open source libre. Je voulais savoir déjà qui avait collaboré, où dans le monde est-ce qu'on sait déjà quelles sont les personnes derrière ce programme et quel a été leur intérêt à le rendre libre et à ne pas le garder avec du copyright vu la manne financière qu'il y a à se faire. Parce que c'est l'esprit scientifique, open source. Est-ce que vous en savez plus là-dessus ?
Alors, les personnes qui sont derrière, hein, c'est OpenAI. On a une fausse vision de la propriété intellectuelle et de la capacité à gagner de l'argent avec des choses que l'on met libres. Si OpenAI, si ChatGPT était resté privé, complètement fermé, ça veut dire que l'utilisation, on ne la met pas libre, on va présenter celui-ci. On aurait la version 3.5 à la rigueur gratuite pour grand public, la version 4 payante. Mais au final, il n'y a que nous qui l'avons, on a un marché qui marche, mais ça veut dire que toute l'intelligence pour le faire évoluer, toute la partie recherche, c'est nous qui devons la faire. La société, nous OpenAI, je me mets à leur place. Si je mets ce produit libre, c'est-à-dire que le réseau de neurones, en fait, est libre. J'explique comment il fonctionne, et puis je le laisse libre à tout le monde. Eh bien, j'ai quelqu'un d'autre qui va aller travailler dessus. Toutes les universités du monde vont se mettre dessus, parce que c'est à la mode, parce que ça marche bien, puis ils vont essayer de trouver quelque chose de mieux, essayer d'aller plus loin. Et comme c'est des universités, quand ils l'auront trouvé, ils vont publier avec, donc ils vont le mettre libre. Donc en fait, vous avez toutes les universités qui travaillent sur les réseaux de neurones qui traitent du langage, qui travaillent pour OpenAI. Donc eux, ils vont récupérer ces connaissances qui seront publiées pour aller plus loin. Et c'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Eux, ça leur permet d'avoir de la recherche et d'évoluer plus rapidement. Derrière, tous les concurrents font la même chose. Les réseaux de neurones, par nature, sont ouverts. Et libre parce qu'on les publie pour pouvoir les comparer aux autres.
Il reste la place à peine pour une toute petite question, une petite réponse plutôt. Alors ça sera, voilà, puis du coup ça sera permettra d'enchaîner avec un mot de la fin après cette question.
Moi je reviens à un côté basique. GPT, c'est quoi la signification ?
C'est une excellente question et je ne me l'étais pas posée. Alors, juste pour terminer, je vais terminer avec ChatGPT.
Et la boucle sera bouclée.
Donc, c'est un réseau de neurones, c'est un type de réseau de neurones. Les transformers sont des types de réseaux de neurones pré-entraînés et génératifs. Donc, c'est un réseau de neurones transformer qui est capable de générer de l'information.
On a rebouclé. Merci infiniment. Donc, Flavien Vernier, donc vous êtes professeur holistique de l'université Saint-Vincent-Mont-Blanc. Vous venez d'Annecy. Vous enseignez aussi à Polytech, donc l'école. Je me trompe pas. Hein. Donc l'école d'ingénieurs et avec il y a un département intelligence artificielle.
Donc on a un département spécifique qui est sur la donnée. Donc forcément, si on traite de la donnée, on a besoin d'intelligence artificielle. Bon.
Merci encore.
Merci à vous
d'être venu jusqu'à Chambéry. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Entremidiers Sciences, il y a un programme de nos rencontres. Il y en a une par mois. La prochaine aura lieu l'année prochaine, le 18 janvier. Nous parlerons plantes et nous intéressons, communiquent-elles vraiment les plantes après ChatGPT. Donc voilà le programme. Merci, bonne fête si on ne se revoit pas avant l'année prochaine. Au revoir.